Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. La prédication de Jean-Baptiste. Au nom de Jésus. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit, c'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Le vêtement de Jean était fait de poils de chameau et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait les sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région voisine de la rivière, le Jourdain venaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Quand Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens étaient venus à lui pour se faire baptiser, il leur dit, bande de serpents, qui vous a enseigné que vous pourriez échapper au jugement de Dieu qui est proche? Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de comportement. Et ne pensez pas que vous n'avez qu'à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre. Car je vous déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas même assez bon pour enlever ses chaussures. Il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Amen. Juste pour signaler que ce texte est en lien avec ce que les enfants ont vu au culte des enfants, ceux qui étaient là, les enfants, vous avez vu une vidéo sur Jean-Baptiste, ceux qui étaient présents à ce culte des enfants. Ces temps-ci, en côtoyant des individus venant de différents horizons, j'ai eu l'occasion, la chance et la grâce de rencontrer des frères et des sœurs en Christ venant du monde entier lors de la rencontre internationale sur la préparation du jubilé de la résurrection du Christ à Vilvorde. Et à travers toutes ces conversations que j'ai eues, j'ai l'impression qu'il y a une atmosphère ambiante universelle dans le monde aujourd'hui, vu la conjoncture politique, vu la conjoncture économique, sociale et même religieuse, où tout semble être morose. Cette impression que j'ai est une attente que je qualifierais, le monde attend quelqu'un, une attente messianique, toute religion confondue. Tout le monde attend un messie, dans tout secteur confondu, même en politique. Si vous avez une... Qui est-ce qui pourrait redresser le pays? Qui est-ce qui pourrait changer les choses? Qui en attend quelqu'un? Nous vivons dans une espèce de bulle, comme si quelque chose allait se passer et que ça tarde encore à venir. Mais en parlant justement d'attente messianique, les Juifs, qui sont les plus, on va dire, les plus connus dans cette dynamique, pour eux, cette attente doit être, d'après un spécialiste rabbinique, doit être une infinie patience, disait-il. Pour deux raisons. La première, et là je prends les propos d'un rabbin qui s'appelle David Bannon, dans son ouvrage où il a écrit L'attente messianique, attente infinie, c'est que pour les Juifs, le Messie pourrait être, je dis bien pourrait être, un personnage dans l'histoire qui va venir et là je ne le savais pas, ou même qui est déjà venu, mais personne ne l'a reconnu. qui devrait résoudre et qui résoudra tous les conflits de l'histoire. La deuxième raison, selon lui, c'est que la notion de Messie n'est pas forcément liée à un personnage, mais il peut aussi être une période de l'histoire. Une période où le monde sera vécu dans l'abondance et que tous les êtres humains vont tout se partager. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ça, c'est leur hypothèse. Je pense qu'en entendant cela, vous serez aussi comme moi à dire que c'est de l'utopie. On est de plus en plus individualiste, on est de plus en plus égoïste, les grands écrasent les petits, partager avec le petit, jamais. D'ailleurs, l'auteur lui-même, il a dit, on appelle ça une utopie messianique. Et si nous relisons notre texte pour la méditation, Jean-Baptiste aussi était dans cette dynamique d'attente d'un Messie qui va aplanir tous les problèmes en Israël. On peut lire entre les lignes que la situation au temps de Jean-Baptiste était très, très compliquée. Rien que la description de son mode de vie, regardez sa tenue vestimentaire, il vit dans le désert, il mangeait des sauterelles et de miel sauvage. C'est comme si ce personnage avait quitté la ville, avait quitté la cité pour vivre en ermite, comme étant un refus symbolique de se laisser corrompre de la vie en Jérusalem. Et il a choisi une vie drastique, voire même ascétique, dans le but d'attendre la venue du Messie. C'était une façon d'attendre le Messie. Je vais vivre en reclus de la société pour être digne de la venue du Messie. Rappelez-vous aussi l'histoire de Daniel et de ses trois amis, Sadrach, Messach et Abednego, qui ont refusé eux aussi de manger à la table du roi, refusant les mets succulents royaux dans le but de ne pas se souiller. Et d'ailleurs, si nous analysons les propos très durs de Jean-Baptiste dans le texte envers les pharisiens et les sadducéens, qui, en passant, signalons-le, les sadducéens étaient les personnes de référence en matière de religion pour son époque. Mais pour Jean-Baptiste, même ces sadducéens, ils se sont aussi pervertis. Les sadducéens qui se sont alignés avec l'Empire romain. Et les pharisiens, eux aussi, qui se vantaient être plus proches de la population, ils étaient aussi des hypocrites, disait Jean-Baptiste. Ils ont profité de cette attente messianique du peuple pour faire mainmise sur la population. Et donc la démarche de Jean-Baptiste de se mettre à l'écart de ces deux mouvements est frappante. C'est comme si Jean-Baptiste lançait un courant qui se met à l'écart de la société dans le but de se purifier dans une perspective d'attente d'un Messie. C'est un peu comme ceux de la communauté des Esséniens qui croyaient qu'à la fin des temps, et qui avaient une discipline de vie très dure pour se préparer à cet événement. Ils vivaient reclus, les Esséniens. Il ne faut pas se mélanger avec les païens. Il faut préparer le retour de ce Messie en ayant une vie très, très disciplinée. D'ailleurs, quelques théologiens de notre époque, comme Michel Langlois, pensent que la communauté de Jean-Baptiste serait peut-être une des branches des Esséniens que ce mouvement, que pour Matthieu, n'est juste qu'un antichambre avant l'arrivée du Messie pour tous les Juifs qui attendaient. Mais ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui dans cette histoire, c'est de pouvoir se poser la question à toi et à moi, quelle attitude devrions-nous avoir dans l'attente du retour du Christ? Il faut bien souligner que nous n'attendons plus le Messie, contrairement aux Juifs, mais nous attendons le retour de notre Sauveur, le retour. Les Juifs, eux, ils attendent un Sauveur. Nous, par contre, nous attendons le Rédempteur, celui qui va accomplir dans sa perfection notre statut d'enfant de Dieu. Et dans cette attente, Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, Rappelez-vous, souvent les pharisiens et les juifs critiquaient Jésus. Il dit, votre maître, là, il a une vie pas vraiment clean. Il aimait se mélanger avec les païens. Ils ont dit, par exemple, comment se fait-il que votre maître, en s'adressant aux apôtres, il mange avec les impies? Nous, qui attendons le retour du Messie, on se met à part. On ne va pas se mélanger aux gens. Comment ça se fait qu'il s'assoit avec les pécheurs? Pourtant, il se dit le Messie. Parce que le Messie, c'est quelqu'un qui est séparé des mondes. Et ça, c'est le piétisme de l'époque. Mais le piétisme de Jésus n'a rien à voir avec le piétisme de Jean-Baptiste et des Esséniens qui faisaient mal à leur corps pour se préserver contre le mal et la souillure de ce monde. Chers amis, le christianisme est une grande famille où il y a beaucoup de branches, beaucoup de tendances, beaucoup de formes de spiritualité, de piétisme. Il y a ceux qui ont une forme de piété assez forte. Il y a ceux qui n'ont pas besoin de vivre comme cela. Tout cela ne nous fait pas un moins ou pas un moins chrétien. C'est une façon de manifester notre piété ou notre amour à Christ. Mais rappelons-nous du texte du lectionnaire du dimanche dernier, où il était dit que le jour où le Fils de l'homme viendra, où on ne le saura pas, les gens mangeront et bureront, se marieront, comme au jour de Noé, entra dans l'arche. Et quand le déluge vint, alors les fit tous périr pendant qu'ils faisaient leur tâche quotidienne. Cela signifie quoi? Cela veut dire que nous sommes appelés à vivre au milieu de la société. Nous ne sommes pas appelés à vivre en reclus de la société. Ne pas vivre en reclus comme faisaient certaines communautés au temps de Jésus, ce n'est pas ça l'attitude de l'attente. Nous nous tenons toujours prêts à tout moment en faisant notre travail tous les jours. Soyons toujours conscients que le Christ peut revenir à tout moment. Peut-être au moment où tu prépares à manger, il arrive. Peut-être au moment où tu vas aller au boulot. Il arrive. L'attitude d'un chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à partir, à tout moment. Ce n'est pas le fait de se mettre à l'écart de la société, comme les Amish, par exemple. Vous connaissez cette communauté, les Amish? Eux, ils ne veulent pas se mélanger avec la... Ah, c'est des païens, c'est des gens souillés. Non, ce n'est pas ça. On ne va pas se mettre dans un monastère pour rien que prier et ne pas se mélanger avec les gens. Ce n'est pas ça l'attitude d'un chrétien. Comme le Christ, il était au milieu de tout le monde. Jésus vivait avec les gens, il partageait leur nourriture, il avait des contacts privilégiés avec des Romains. On le considérait comme un traître, Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fricote avec les Romains, celui-là? Il était avec les nobles, il était avec les tout-petits, et ce qui encore était plus grave, il était aussi avec les marginaux de la société. Il était un peu comme le père, comment s'appelle le père des Loubards? Avec les collecteurs d'impôts. Jésus était avec les prostituées. Jésus était avec les malades. Jésus était avec les impurs. Vous savez, dans les évangiles, à chaque fois qu'on disait Jésus toucha le malade, ça veut tout dire. Un rabbin, un homme d'église ne touchait jamais quelqu'un qui était impur. Jésus, il était très tactile. Il aimait toucher. Quand il guérissait, il mettait sa main sur les yeux. Il touchait le malade. C'est un Dieu qui est proche de l'homme. Ce n'est pas un Dieu qui se distance de l'homme. En d'autres termes, il se mélangeait avec les gens, mais cela n'a pas affecté sa sainteté ni sa majesté. Nous, aussi qui se prononçons chrétiens, comment nous nous comportions-nous au milieu de la société ou du monde, là où nous évoluons, dans ton travail, dans ton milieu où tu vis? Regardez, l'évangéliste Matthieu semble nous montrer un Jésus juge dans le sens de celui qui fait la vraie distinction ou une mise en séparation entre le grain de la paille. J'aime bien cette image. Il va séparer le grain de la paille. Cela implique que ce n'est pas à nous de nous mettre à part afin de montrer aux gens que nous sommes des vrais chrétiens et on ne va pas se mélanger aux gens. Ce n'est pas ça l'appel de l'évangile. C'est le Christ qui fera la distinction, C'est lui qui fera la différence entre celui qui l'appartient vraiment et celui qui fait semblant de l'appartenir. Et en parlant de la paille du blé ou de la paille du riz, ça me rappelle un peu au pays, à Madagascar, cette paille du riz. Quand elle a été bien asséchée, cette paille, on peut faire beaucoup de choses avec des chapeaux de paille, des sacs, et ça coûte très cher même. Elles peuvent être si belles, si attrayantes, ces choses qu'on a travaillées à la main, tout ce qu'on veut, mais elle restera toujours qu'une paille, et à la fin, elle sera brûlée, comme dit l'Écriture. Par contre, le grain qui n'a pas de charme, le grain qui peut-être qui n'est pas si beau que ça, lui, on le mettra dans le grenier parce qu'il est très précieux et il rassasiera tous ceux qui auront faim. Vous voyez la différence? La paille, elle a une beauté extérieure qui attire l'attention du public mais qui ne sert à rien et qui va être brûlée. Par contre, le grain qui n'est pas si extraordinaire, mais qui donne de la nourriture aux gens. Est-ce que tu es une paille ou le grain? Chers frères et sœurs, à quoi sers-tu? Est-ce juste une foi chrétienne qui remplit toutes les formes extérieures requises par l'entourage? Ah, ça c'est un vrai chrétien, l'extérieur, des ornements. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui rassasie ton entourage? Le jugement du Christ commence dès ici-bas. On n'attend pas le jugement dernier. Le jugement commence par la séparation qui se fait ressentir à partir des fruits que tu donnes pour les autres. Ce n'est pas pour le Christ. Ce n'est pas pour dire à Jésus, regarde, je suis bien, j'ai fait ça. C'est pour rassasier ton voisin, ton prochain, celui qui est dans le besoin. Le jour J, tant redouté par beaucoup, n'est plus un jour menaçant pour celui qui porte des fruits. Ça ne fait pas peur le jour du retour de Christ. Au contraire, c'est plutôt le jour de récolte, le jour de fête. Vous savez, dans la Bible, le temps de la moisson est un temps de fête où les enfants d'Israël piétinaient les raisins dans le pressoir en chantant. Cette image-là qui est véhiculée dans le prophète Ésaïe. Mais le jour de la récolte a deux sens. Elle est aussi une image de jugement pour les autres nations qui ont fait souffrir le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et cela a été repris par l'Apocalypse pour décrire le jour du Seigneur que nous attendons tous. La dernière question que je vous pose, fais-tu partie de ceux qui redoutent ce jour-là, ou est-ce que tu fais partie de ceux qui attendent cela avec impatience, ce jour de fête, où l'époux va revenir pour élever son épouse, pour montrer devant le monde entier que tu es son enfant. Et ce sera un jour de gloire, le jour où le Seigneur va te glorifier devant le ciel et la terre. Amen.